Chapitre 49. Au bout d'âpres négociations avec un Franck plus que jamais irascible, Nicolas avait fini par renoncer à une chambre d'hôtel en solo et pris ses quartiers chez les Charcot, à l'étage, au bout du couloir, dans la chambre d'amis. Attablés autour d'une bonne bouteille, les deux hommes et Lucie mangeaient un poulet fumé et des pommes de terre rissolées. L'affaire était, bien sûr, au cœur de leur conversation. Nicolas avait exposé sa découverte au sujet du mythe de Prométhée.
« Vous n'avez pas entendu les dernières infos, je suppose ?» rebondit Lucie.
« Je n'écoute plus les infos, » répliqua Charcot.
« Tu devrais. Aujourd'hui, au Soudan, il y a eu des affrontements entre la population et les forces de l'ordre à cause de la hausse du prix de la farine, et donc du pain. »
Nicolas fronça les sourcils.
Exactement ce qu'avait dit Chevalier dans sa lettre, la troisième prédiction.
Oui, c'est dingue, non? J'ai regardé un peu le truc avant que vous rentriez. J'ai fouiné sur Internet et on n'en parlait nulle part dans les médias avant aujourd'hui. Autrement dit, il y a une dizaine de jours, Chevalier pouvait difficilement être au courant des événements d'aujourd'hui.
Sauf s'il connaissait des gens sur place.
Au Soudan? Et à Cuba aussi, tant qu'on y est.
Tu as raison, répliqua Nicolas. Ça ne tient pas la route.
Lucie but une gorgée de vin.
Figure-toi que de violentes émeutes avaient éclaté au Soudan en 2013, puis en 2016 autour du même sujet, la hausse des denrées de base. Alors je me suis intéressé à cette histoire de virus de choléra à Cuba. Là aussi, en 2013 et 2016, se sont déclarées des épidémies de choléra et d'autres bien avant. Quant aux grandes crues de la Seine, aussi importantes que celles qu'on vit en ce moment, il y a eu 1910, bien sûr, puis 1955, 1982 et 2016.
Charcot écoutait sans rien dire. Il termina son verre et s'en resservit un.
2016, année noire, on dirait, fit Nicolas intrigué.
Et? Ben, je ne sais pas. Mais tous ces événements sont reproductibles, cycliques, et non pas uniques. Et quand une même chose se reproduit, il y a forcément une succession de causes à l'origine qui restent globalement les mêmes. Les saisons, comme l'automne ou l'hiver, entraînent des précipitations. Les pluies gorgent les sols, les rivières gonflent et finissent par sortir de leur lit. Je sais, c'est vague, imprécis, mais c'est de cette façon que ça se passe, non? Et si Chevalier avait trouvé... je ne sais pas, un lien entre tout ça. Un truc qui permet de prédire les événements sur le point de se reproduire.
Nicolas secoua la tête.
Chevalier aurait découvert un mécanisme que des météorologues ou des épidémiologistes n'ont pas encore trouvé, malgré leurs connaissances, la puissance de leurs ordinateurs et leurs modèles mathématiques.
Tu te doutes que c'est impossible.
Et puis, bon sang, Lucie, admettons qu'il y ait un truc, et il y en a forcément un, c'est quoi le lien avec ce labo chez de Manchot?
Sous terre, là-bas, c'était pas des prédictions ou des probabilités. C'était des doigts dans des bocaux et des kits génétiques qui servent à je ne sais quoi.
Lucie haussa les épaules.
Je sais, mais je suis sûr que tout est lié.
Ils débarrassèrent, puis allèrent se coucher. Franck avait prévu de passer son dimanche matin au Bastion avec Pascal à régler une partie de la paperasse accumulée depuis des jours. Il comptait néanmoins s'accorder un après-midi en famille avant la reprise de lundi. Nicolas, lui, avait décidé de se lever tôt avec une destination en tête. Il regarda l'heure. Bientôt minuit. Pas envie de dormir, trop d'idées en tête, trop d'inconnus. Son téléphone émit une notification au moment où il se leva enfin dans la chaleur de ses draps. Il le consulta aussitôt. L'alerte provenait du faux profil Facebook auquel il était resté connecté. Angèle Benlassorik venait de recevoir une acceptation d'ami de Roland Cazulois, le petit ami d'Audra. Un message l'accompagnait.
Angèle, oui, bien sûr, je me souviens de toi, la fac de droit. « Désolé pour le refus précédent. Tu sais, les messages automatiques. Bienvenue sur ma page. Tu me dis ce que tu deviens, Tu m'acceptes aussi en ami ? Amicalement, Roland. Nicolas émit un petit rire.
Tu te souviens de moi, c'est ça ? Faux cul !
Il alluma la veilleuse et se rendit sur le fil d'actualité de Cazulois. Il faisait partie des privilégiés. Le profil indiquait 23 amis. Un statut mentionné en couple avec Audra Spic. Nicolas hésita à s'attarder sur la page. À quoi bon ? Mais la curiosité l'emporta. Les messages postés par Cazulois étaient réguliers. Il ne se prenait jamais en photo, mais affichait des images commentées de nature sauvage, de lagons, de fleurs. On ne comprenait pas vraiment ses centres d'intérêt. Il vivait à Tahiti, Papette, plus précisément. Nicolas s'enfonça dans son siège. Ainsi, Cazulois, avec sa chevelure de feu, était installé à l'autre bout du monde, et non en France, comme il le pensait. Pourquoi était-il parti ? Depuis quand ? Il postait des vidéos ou des clichés d'Audra et lui, ou d'Audra seul, avec des commentaires qui ne laissaient aucun doute sur son amour pour elle. Les dates, les situations étaient désordonnées. Une fête à Marseille en 2008, eux deux assis devant une tente sur une étape de GR20 en Corse en 2013, elle, le nez dans un bol de lait un matin pluvieux de 2007, lui enfant, elle adolescente, et ainsi de suite. Des souvenirs, parfois intimes, jetés sur la toile. La photo la plus récente datait d'il y a une heure à peine. Lui et Audra sur un banc avec un oiseau prenant la pose. On voyait aussi de simples messages où il écrivait combien elle lui manquait et elle qui répondait en commentaire et lui derrière « ad vitam aeternam », tel un jeu sans fin entre deux amants. Nicolas éprouvait de la honte à s'insinuer ainsi dans cette étrange intimité, une espèce de cri électronique qui disait « on est tous les deux, mais vous pouvez quand même regarder parce qu'on vous y autorise ». Il poursuivit son intrusion, intrigué, avec l'envie de connaître la suite. Quand Cazulois était-il parti ? Pourquoi ? Comptait-il revenir ? Plus Nicolas descendait sur la page, plus il remontait dans le temps. Il découvrit ensuite une rupture dans le fil d'information, un trou temporel, un avant et un après. L'été 2016, celui de l'attentat de Nice. Autour de cette période, 3 mois et demi séparaient 2 messages successifs. L'un daté de fin juin, Cazulois et Audra avaient fait un selfie au Cap d'Antibes, et le suivant du 13 octobre, depuis un hublot, une vue aérienne de la Polynésie. À l'évidence, Roland avait fui les ténèbres du drame sur la promenade des Anglais. Plus de messages, un départ à l'étranger. Mais qu'avait-il fui exactement ? Pourquoi avait-il abandonné celle qu'il semblait encore aimer par-dessus tout ? Nicolas essaya de trouver une raison et songea alors à un enfant. Ces deux-là étaient-ils parents ? Où l'avait-il été ? Avec son œil de flic, il décortiqua les messages plus anciens et ne releva rien qui puisse expliquer un si brusque départ dans l'autre hémisphère. Le compte Facebook avait été créé 2 ans avant les attentats. Cazulois ne parlait pas de son métier. Dans quoi exerçait-il ? Pourquoi Audra ne l'avait-elle pas suivi en Polynésie française ? Son compagnon allait-il bientôt revenir ? Qu'apportaient les réponses à toutes ces questions ? La jeune femme souffrait, et beaucoup. Le drame de juillet 2016 l'avait poussée ici, à Paris, loin de ses racines. Une fille capable de dormir dans ses draps et de s'enfuir à moitié dévêtue la minute d'après. Un pétale de rose qui tremblait rien qu'au ronflement du moteur d'un camion. L'idée de l'enfant tournait en boucle dans la tête de Nicolas. La perte d'un enfant. Mais peut-être se trompait-il, car nulle part, dans aucun message, il n'était fait allusion à un enfant. Il quitta le profil sans répondre au message, sans inviter Roland en contrepartie. Roland. Voilà qu'il l'appelait Roland maintenant, comme un vieil ami. Il secoua la tête de dépit. L'air de rien,
il éprouvait une forme d'empathie pour un type qu'il ne connaissait pas. Même pas pour l'homme, d'ailleurs, mais pour sa représentation virtuelle. Ce n'était pas Roland qu'il trouvait sympathique, mais l'avatar que Facebook décidait de lui présenter. Il se déconnecta, ferma la page, puis relança son navigateur pour s'assurer qu'aucune trace ne resterait dans la mémoire vive de son téléphone. Puis, il se connecta sous son propre compte, Nicolas Bélanger, qui n'avait aucun lien avec le faux profil Angèle Benlassoric. Pas d'amis en commun, pas de point d'intérêt convergent, rien. Une publicité pour des vols pas chers pour la Polynésie française s'afficha alors au beau milieu de son propre fil d'actualité. Là, Nicolas éteignit son téléphone, la veilleuse, et ferma les yeux. Aucun doute. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, veillait sur lui.